Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Aujourd'hui, le peintre et le cinéphile. L'un est un peintre qui aime à privilégier dans son art la puissance évocatrice du réalisme pour redonner une place à ses contemporains dans leur propre environnement. L'autre est un passionné et spécialiste de l'histoire et de l'esthétique du cinéma. Ils se rencontrent autour d'une œuvre en totale rupture avec l'académisme, où la beauté ne se pose plus en modèle figé, mais en impression saisie sur le vif. Le cinéphile y perçoit un sens du cadrage cinématographique, une suggestion du mouvement qui participe de façon spontanée à une composition quasi rythmique, un film même dont il imagine le scénario. Le peintre, c'est Gustave Caillebotte. L'œuvre, c'est le tableau des raboteurs de parquet. Le cinéphile, c'est Dominique Ozel qui nous entraîne dans un roman épistolaire à la découverte de l'histoire d'un chef-d'œuvre, roman intitulé « Ouvrier, artisan du beau » selon Caillebotte, paru aux éditions Atelier Henri Dougier. Bonjour Dominique Ozel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je salue nos fidèles auditeurs à qui je rappelle que cette émission pourra se retrouver sur notre site ainsi qu'en podcast sur toutes les grandes plateformes numériques. Dominique Ozel, première question que j'ai envie de vous poser, êtes-vous peintre ?
Hélas non, je n'ai pas ce don de savoir représenter les gens, les lieux, les animaux, mais je suis très sensible à la peinture et notamment à la peinture du 19e siècle et celle qui est exposée au musée d'Orsay, d'où évidemment cette attirance pour ce tableau Les raboteurs de parquet et pour le peintre Gustave Caillebotte.
Sur lequel nous allons revenir naturellement en détail. J'aurais pu vous poser aussi la question, est-ce que Caillebotte aurait pu être un cinéaste ?
Je pense qu'il aurait pu être un cinéaste, il aurait pu être un photographe également, on en reparlera bien évidemment, puisque son frère Martial était à la fois un compositeur assez reconnu et aussi après un photographe. Je pense que Caillebotte a su saisir sur le vif les gens, les choses, les actions, ce Paris haussmannien qui changeait, qui était bouleversé, mais aussi ces personnes que l'on ne représentait pas forcément dans la peinture. Et aussi, c'est un peintre qui... bien sûr, et du 19e, mais je trouve beaucoup d'analogies avec Edward Hopper, qui est un peintre qui a su aussi, dans ses toiles, cadrer, recadrer, donner une impression de ce qu'on appelle au cinéma le hors-champ, c'est-à-dire ce qui n'est pas présent dans le cadrage, mais que l'on devine. Voilà pourquoi Caillebotte aurait pu être un cinéaste, et je pense qu'on peut être un cinéaste quand on sait filmer des choses qui sont pas forcément perceptible pour tout le monde. Et Jean Renoir disait quelque chose que je trouve très beau, plus un sujet est petit, plus on peut le traiter avec grandeur. Et je crois que c'est ce qu'a fait Gustave Caillebotte sur plus de 450 tableaux.
Alors nous allons y revenir en détail, aussi bien sur la vie et la personnalité de Caillebotte que sur cette œuvre des raboteurs. Auparavant, je voudrais vous présenter un petit peu à nos auditeurs. Vous m'arrêtez si je commets des erreurs, naturellement. Donc, vous êtes un passionné de cinéma depuis toujours. Vous avez un cinéaste fétiche qui est François Truffaut, si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait, dont on fête le 40e anniversaire cette année, puisqu'il est mort le 21 octobre, il y a 40 ans.
Vous êtes titulaire d'un DA de lettres modernes, d'un doctorat d'études cinématographiques. Vous avez enseigné l'histoire du cinéma à l'Université de Toulouse. Vous avez été directeur littéraire chez l'éditeur Jeunesse Milan. Vous avez été conservateur de la Cinémathèque de Toulouse. Et vous êtes actuellement directeur de la maison d'édition toulousaine Priva.
Tout à fait, oui.
Voilà, donc, beau parcours dans la littérature et dans le cinéma.
Voilà, deux de mes grandes passions.
Alors, en termes de bibliographie, naturellement, sans surprise, vous avez commis des ouvrages sur l'histoire et l'esthétique du cinéma. Notamment, en 2004, justement, un ouvrage qui s'appelle « Paroles de François Truffaut ». Vous avez aussi... écrit un livre qui s'appelle « Autour de Farebrick » de Georges Rouquier, qui qui est un livre au sujet d'un film. Vous pourriez nous en dire un mot ?
Oui, alors Georges Rouquier, c'est un cinéaste qui est né à Lunel-Vielle, mais qui avait sa famille en Aveyron. Et il a décidé, après avoir fait un court-métrage, donc là je parle dans les années 44, d'imaginer un long-métrage qui raconterait la vie d'une famille en Aveyron sur toute une année. Et ce film, c'est Farobic. Alors moi, je suis né pas très très loin de Farobic, donc pour nous, Aveyronnais, ce film, c'est un peu un album de famille, même si on n'a pas été issu d'une famille d'agriculteurs, ça représente quand même quelque chose pour nous. Et ce film, c'est un film qui est sorti en 1946, qui a eu un prix à Cannes, enfin qui a été quelque chose d'extraordinaire. Et Spielberg considérait ce film très important dans son panthéon cinématographique. Et justement pour vos auditeurs, peut-être ont-ils déjà entendu parler de Georges Rouquier, qui a réalisé un long métrage qui s'appelle « Lourdes et ses miracles » et qui est un document exceptionnel. Il était parti, commandé par ce qu'était à l'époque l'émission Le Jour du Seigneur, mais qui avait, je crois, un autre nom, pour faire un court métrage sur Lourdes. Et pendant le tournage, il a assisté, disons, où il a vu un miracle qui s'est passé. Et donc, le court métrage est devenu un long métrage. Et c'est un film qu'on peut voir en DVD, qu'on peut trouver dans certaines librairies catholiques ou même sur Internet. Voilà, c'était juste pour faire un lien avec vos auditeurs. Et donc ce film, c'est un film qui a eu 40 ans plus tard une suite, Bic Phare, ce qui est inédit au cinéma, où il a repris certains comédiens qui étaient tous non professionnels, puisque c'était les comédiens issus de sa famille. Et voilà, c'était 40 ans plus tard comment l'agriculture a changé. Mais peut-être que là je m'éloigne de Caillebotte, quoique Caillebotte quand même aurait pu peut-être peindre des agriculteurs, enfin qu'on appelait à l'époque des paysans, comme l'a fait Millet avec les glaneuses et l'Angélus. Donc peut-être qu'on n'est pas autant éloigné qu'on pourrait le penser entre Georges Rouquier, cinéaste, et donc le réalisateur, je dirais, entre guillemets, des raboteurs de parquet, donc qui est un peintre et qui est Gustave Caillebotte.
Tout à fait, je pense que ce petit détour n'était pas inutile du tout. Alors je voudrais revenir au livre que vous venez nous présenter aujourd'hui. Alors ce livre, il était édité par les éditions Atelier Henri Dougier dans le cadre d'une collection qui est très particulière, puisque cette collection propose à chaque édition de livre l'histoire d'un tableau célèbre pour en découvrir l'envers du décor. Et en exergue, l'éditeur met, par rapport à cette l'ambition de la collection, en disant « Certains tableaux ont cette étonnante capacité à nous enchanter, à toucher notre imaginaire, nos émotions. » Alors, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce concept de collection ?
Alors déjà, Henri Dougier, c'est un grand monsieur de l'édition, hein, qui aujourd'hui est âgé, mais encore présent, je dirais, dans le monde de l'édition, via cette maison d'édition. C'est lui qui a créé, il y a plusieurs années, les éditions Autrement, qui est une maison d'édition très prestigieuse. C'est lui qui a découvert Inconnu à cette adresse, ce roman qui a bouleversé, je dirais, le monde de l'édition. Et donc, quand il a revendu les éditions Autrement, il a décidé, parce que le virus de l'édition est le plus fort, de créer une maison d'édition avec, je dirais, un axe éditorial particulier, et c'est devenu les ateliers Henri Dougier. Et rapidement, il a créé cette collection qui s'appelle Le roman d'un chef-d'œuvre, où il demande à des écrivains, à des historiens de l'art, de choisir un tableau et de raconter une histoire romanesque, mais à la fois documentée, sur un tableau, comment il est né, pourquoi, sa réception, etc. Quelques libertés liées au roman sont possibles, mais il faut quand même expliquer, raconter ce tableau. Et donc, j'avais lu celui sur Edward Hopper, dont je ne me rappelle plus le titre, qui est vraiment un très très bon...
Les heures suspendues.
Les heures suspendues, voilà. Et j'en ai acheté un deuxième, un troisième. Et puis, en tant qu'éditeur, je me suis dit, puisque j'ai quand même publié une vingtaine d'ouvrages, ça m'intéresserait de me pencher sur un tableau. Et je lui ai proposé deux sujets. Je lui ai proposé Rosa Bonheur et Gustave Caillebotte. Et 20 minutes après que j'ai adressé le mail, il m'a rappelé, il m'a dit « Mais j'adore les raboteurs de parquet, il faut le faire ». Et ce qui est amusant, c'est que Rosa Bonheur a fait l'objet d'une grande rétrospective il y a 2 ans ou 2 ans et demi à Orsay, tout comme là, depuis le début du mois d'octobre, une grande rétrospective Caillebotte. Donc j'étais peut-être déjà dans la reconnaissance de deux peintres qui sont peut-être plus connus aux États-Unis qu'en France, quoique maintenant on sait qui est Caillebotte. Hein. Souvent, Caillebotte, vous posez une question à quelqu'un, est-ce que vous connaissez Caillebotte ? Non. Et puis vous montrez un tableau de Caillebotte. Ah oui, 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 ça je le connais, voilà. C'est parfois comme certains cinéastes, vous parlez d'un cinéaste comme Chabrol ou Truffaut à une jeune génération, et puis ça dit rien, et puis vous parlez les 400 coups, ah oui, Truffaut, que la bête meurt, Chabrol, etc. Voilà. Et donc, je suis parti dans cette aventure, et tout comme bon éditeur, j'ai pris quand même beaucoup de temps pour l'écrire, et puis dès que nous avons su qu'il y avait cette grande rétrospective, on s'est dit c'est vraiment le moment de le publier. Donc là, pendant un an, ça a été un travail assez intense, parce que même si c'est un roman qui est relativement court, enfin, c'est pas une nouvelle, hein, voilà, ça prend beaucoup de temps, et puis ça m'a demandé beaucoup de recherche aussi, parce que j'ai voulu faire un roman où il y a beaucoup de points de vue, beaucoup de personnes qui existent, qui auraient pu exister, et qui sont là pour parler du tableau, de l'époque, de la personne de Caillebotte. Voilà. Donc, il y a eu un petit travail journalistique au départ, une accumulation de pas mal de documents, et ensuite, voilà, on se débarrasse de tout ça pour aller dans la rédaction. Et ça a été un bonheur de vivre avec Caillebotte plusieurs mois. Voilà. Et je n'ai pas encore vu l'exposition, je vais la voir dans quelques semaines. Et je pense que j'aurai une grande émotion de revoir ces raboteurs. Alors ce qui est amusant, c'est que ces raboteurs, il y a un peu plus d'un an, je suis allé les voir à Orsay, et j'arrive dans la salle, et je ne les trouvais pas. Et puis je vois une petite étiquette en disant « Les raboteurs sont partis pour une exposition en Suisse ». Ah mince, je me suis dit. Et puis, 6 mois après, je reviens à Orsay, les raboteurs étaient partis à une autre exposition. Alors, je me suis dit, ce tableau, il interpelle quand même des musées au moins européens. Et puis, pour m'immerger dans cette problématique et dans cet univers Caillebotte, je suis allé ailleurs, à côté de Paris, visiter la maison Caillebotte que je n'avais pas vue, parce que j'avais vraiment besoin de me plonger dans quelque chose de concret, d'être à la fois face, devant ou autour du tableau, mais d'être dans quelque chose de palpable. Hein. Ce qu'on appelle maintenant les maisons d'artistes ou d'écrivains, voilà, c'est, je trouve, une très belle façon d'appréhender un artiste ou un écrivain. Et donc, dans ce roman, ouvrier artisan du beau, c'est ce que j'ai essayé de faire sentir, voilà, toutes les facettes de ce personnage, pourquoi il a peint ce tableau, comment le tableau est né, comment il a été reçu, et bien évidemment en étant un peu documenté, parce que on va en reparler, l'univers Caillebotte, ça n'est pas que peindre, c'est plein d'autres choses. Voilà.
Alors nous allons voir effectivement tout cela en détail juste après avoir écouté un moment Eric Satie. Thank you.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes en compagnie de Dominique Ozel pour son ouvrage « Ouvrier, artisan du beau selon Caillotte ». Dominique Ozel, nous venons d'entendre, d'écouter plus exactement, la gynopédie numéro 1 d'Éric Satie. Vous avez choisi ce morceau en rapport avec Caillotte.
Oui. Alors, je trouve que l'univers de Satie correspond parfaitement à l'univers graphique de Caillebotte. Alors, souvent, dans Caillebotte, il y a ces arrêts, ces personnes qui sont figées, qui sont de dos, le temps qui se distord un petit peu. Et en écrivant le livre, j'écoutais énormément Satie, qui m'a permis de rentrer peut-être un peu mieux dans ses toiles. Il a peint aussi beaucoup de scènes d'extérieur, de jardins. Et voilà, je trouve que Satie va bien. Alors, on pourrait dire que Satie va bien avec Magritte, parce que quand on voit certains tableaux de Magritte surréalistes, et notamment ces parapluies qui tombent, voilà, ça peut être aussi une musique. Mais je trouve que Caillebotte est tout à fait en lien avec cette musique, un peu proustienne aussi. Voilà, on est dans des madeleines, donc il y a peut-être de ça également.
Alors revenons au titre peut-être de l'ouvrage, « Ouvrier, artisan du beau » selon Caillebotte. C'est quelque chose qui renvoie à l'essence même de la collection, puisque pour caractériser la collection, on parle du beau comme la quête on parle du livre et de l'objet de cette collection comme la quête éperdue du beau, qui est cité souvent par l'auteur. C'est quelque chose qui vous a inspiré dans votre choix, qui vous a guidé.
Alors, évidemment, quand on voit ce tableau de Gustave Caillebotte, que sans doute vos auditeurs connaissent ou pourront découvrir en cherchant sur Internet, mais le tableau est assez connu, c'est vrai qu'on est face à trois ouvriers qui sont dans un appartement et qui sont en train de s'occuper, entre guillemets, d'un parquet, de le raboter, entre autres, donc d'où le nom raboteur. On appelait ça aussi les frotteurs de parquet à l'époque. Donc on est dans un tableau, je dirais, qui représente des ouvriers, mais qui est capté par un artiste. Et je trouve qu'entre les deux, il y a un très beau parallèle. On ne sait pas qui met en valeur l'autre. Est-ce que c'est ces trois ouvriers qui sont le modèle, le beau modèle d'un sujet de tableau pour Caillebotte, ou si c'est le contraire. Voilà. Donc pour moi, ils sont tous artisans du beau, qu'ils soient ouvriers ou peintres. Donc voilà, il y a ce petit clin d'œil dans ce titre.
Alors, je voudrais signaler aux auditeurs que dans le livre, il y a deux rabats qui permettent de voir ce tableau. Alors, un premier qui permet de voir l'intégralité du tableau et un second qui permet de voir un détail.
Oui.
Et donc, ça vient illustrer naturellement le tableau. Et comme vous le disiez précédemment, probablement que la plupart des lecteurs, même si ils ne connaissent pas Caillebotte précisément, reconnaîtront le tableau en question.
Oui, c'est un tableau qui est assez connu et qui a fait l'objet de beaucoup de reproductions et de déclinaisons sur des mugs, des sacs, etc. Il y a des tableaux comme ça qui... Alors, c'est justement ce qui est bien, c'est lorsqu'on voit un tel tableau qui a était tellement illustré que lorsqu'on le voit pour de vrai, on le trouve magnifique parce que les illustrations sont pas à la hauteur, je dirais, de la toile. En plus, c'est un tableau de très grand format également. Et les reproductions que l'on voit sont plutôt de petit format.
D'accord. Alors, tout le livre part d'une scène qui, on pourrait dire, va planter le décor. Et peut-être qu'il serait intéressant pour nos auditeurs que vous puissiez lire un extrait de cette entrée dans le roman.
Oui, alors je vais lire les deux premières pages qui sont assez courtes et qui est une forme de préambule dont le titre est « À l'origine ». Paris, un matin de 1875. La scène se passe dans la pièce principale d'un appartement bourgeois, vide de tout meuble et décorum. Trois artisans, torse nus, visiblement des menuisiers, sont agenouillés en plein travail. Près d'eux, un homme élégant les observe attentivement. Armés de rabots, de marteaux et de racloirs, ces ouvriers s'affairent à redonner vie au parquet devant le propriétaire des lieux. Lui n'est pas là pour les inspecter, mais bien pour les observer. Artiste peintre, il se nomme Gustave Caillebotte. Nul besoin d'aller voir ailleurs. Il a compris qu'il tient là le sujet de sa prochaine toile, mais il n'a que peu de temps pour capter et saisir les trois hommes afin de garder une trace de cet instant. Mine de plomb, taille-crayon, feuilles et cartons à dessin en main, le peintre s'apprête à immortaliser la scène. Son regard est captivé par un jeu de lignes et de perspectives, ainsi que par cette forte lumière qui traverse la fenêtre pour se refléter sur les corps à demi-nu des ouvriers et souligner leurs gestes répétitifs. Il lui faut d'emblée figer ce moment avec précision et réaliser plusieurs esquisses. La mine de plomb qu'il tient délicatement glisse sur la feuille de papier, entraînée par le mouvement incessant et le bruit sec du rabot sur les lames du parquet en bois. Cette mine crée des aplats avec des contrastes, suggérant avec exactitude la posture et les gestes des travailleurs. En complément, un crayon compté qui danse sur le papier vient mettre en relief quelques détails plus précis et parachève ses esquisses. Caillebotte taille parfois son crayon, laissant tomber à terre ses fins copeaux de bois à lui. Sur la feuille et sur le parquet, les bruits de leurs travaux sont à l'unisson. Ils s'accompagnent, se répondent, se complètent et s'accordent parfaitement. Le peintre et les raboteurs matérialisent leur art au moyen de leurs outils, de leurs techniques et de leurs capacités créatrices. Enfin, le peintre est prêt à commencer son tableau dans son atelier, qu'il regagne aussitôt. La toile blanche est posée sur un chevalet. Il y devine déjà son œuvre. Il sait qu'il va peindre ses raboteurs sans les trahir dans leur ouvrage tout en les magnifiant.
Donc ceci constitue l'entrée de ce roman que l'on pourrait qualifier d'ailleurs, on verra plus tard pourquoi, d'épistolaire, avec le face-à-face que vous évoquiez entre les raboteurs d'un côté et le peintre de l'autre. Alors, en quoi ce tableau, le sujet de ce tableau, est original et par rapport à l'époque ?
Alors, il est original d'abord de par le sujet. C'est l'une des premières représentations d'ouvriers dans un monde urbain. On n'avait jamais vu ça. On a eu des ouvriers agricoles, hein, on l'a vu avec Millet et d'autres. Gustave Courbet aussi, les casseurs de pierre. Mais là, c'est la première, je dirais, représentation d'un monde ouvrier urbain. La deuxième chose, c'est évidemment ce cadrage et cet angle de prise de vue. Alors, je dis de prise de vue. Excusez-moi, c'est un lapsus, mais je l'assume. La façon dont il a regardé et la façon dont il s'est positionné pour les regarder, il y a quelque chose qui est un petit peu, je dirais, irréaliste. Hein. Regardez quand même leurs bras, si vous avez la possibilité, les auditeurs, de visualiser le tableau, leurs bras sont allongés. Il y a un petit peu une déformation de la perspective. Un petit peu comme si on avait utilisé un grand angle en photographie. Voilà. Et la troisième chose, c'est le sujet. Ces trois hommes dans un appartement vide de tout décorum, qui ne se regardent pas, qui ne regardent pas le spectateur. Donc une scène, je dirais, assez particulière. Une lumière qui est étrange également. Voilà. C'est un tableau étonnant. Et pourtant, c'est un tableau, lorsqu'on est face à lui, on est littéralement capté, envoûté et on est dans une représentation de la figure masculine que Caillebotte a évidemment dont il a été je dirais un digne représentant hein, puisque l'exposition à Orsay le titre de l'exposition c'est peindre les hommes, donc il a peint évidemment beaucoup d'autres sujets, mais voilà sa manière je dirais de peindre les hommes est assez remarquable de par sa formation bien évidemment, donc on est pas dans une figure mythologique, mais on l'est presque, mais ça serait une figure mythologique et je dirais une façon de dessiner un petit peu Michel-Ange lié à Michel-Ange, pardon, excusez-moi, mais là on est quand même dans un sujet qui n'est pas du tout un sujet mythologique, voilà. Donc ce télescope plein de choses étonnantes dans ce tableau.
Et est-ce que Caillebotte avait une intention particulière quand il a imaginer ce tableau, parce qu'il faut peut-être préciser que a priori il s'agit d'un appartement de famille de sa famille.
Oui, c'est un appartement de sa famille et ce parquet qui est raboté était un des ateliers dans l'immeuble que possédait son père, puisque la famille Caillebotte est une famille extrêmement fortunée. Hein. Le père de Caillebotte a fait fortune dans les draps pour l'armée napoléonienne et ensuite sur d'autres choses. Donc c'était une famille très fortunée et donc l'immeuble leur était dédié. Et là, je pense que c'est, enfin j'en suis sûr même, c'est l'un de ces ateliers qui est en train d'être, on va dire, restauré. Et le parquet, évidemment, il faut le raboter, les lames gondoles, etc. Donc, je pense que là aussi, il est en train d'illustrer des personnes qui sont dans un lieu qui est son lieu de travail aussi. Voilà. Et aussi, dans tous ces tableaux, il montre un peu ce Paris haussmannien qui change, et là on est dans un appartement typiquement haussmannien, c'est-à-dire un appartement qui a 30 ans à peu près, ou 40 ans, hein. Il faudrait vérifier avec exactitude, mais voilà, c'est un nouveau Paris, hein. Il a filmé des gens qui se promènent dans le Paris avec ses appartements haussmanniens, avec des balcons, etc. Souvent des personnages regardent au travers d'une fenêtre, donc d'un appartement haussmannien, l'extérieur de Paris haussmannien aussi, qui change. Donc je pense que ce tableau, voilà, il arrive à résumer un petit peu tout ce qui pourrait être l'univers de Caillebotte, sauf le floral, les jardins, etc., qui a été aussi une de ses grandes passions et qui a fait l'objet, évidemment, de nombreux tableaux.
Alors, ce tableau a été réalisé en 1875. Il a été présenté au salon officiel de l'Académie et il a été particulièrement mal reçu, puisqu'il a été refusé en 1875.
Oui, il a été refusé, donc Caillebotte en a été très très affecté, et donc l'année suivante, le tableau sera présenté à la deuxième exposition des ce qu'on appelait des refusés, c'est-à-dire des peintres impressionnistes, et d'ailleurs, il réalisera une deuxième version des raboteurs, complètement différente de celle-là, où il n'y a que deux raboteurs et sur un peu plus petit format, presque pour se venger. Vous n'avez pas voulu mes raboteurs l'année où je voulais les présenter, mais j'en fais un deuxième, voilà. Et cette toile même soulèvera beaucoup de polémiques, et quelqu'un comme Émile Zola sera extrêmement critique face à ce tableau qu'il considère, va résumer de façon, avec trois guillemets, vulgaire, voilà. Alors, ce tableau n'a rien de vulgaire, mais je crois que Zola s'est dit comment un peintre fortuné, très très riche, mécène d'artistes, a le droit de représenter ce petit peuple ouvrier. Je pense qu'il y avait de ça. Mais bon, quelques années plus tard, Zola reviendra sur sa décision de qualifier Caillebotte de peintre moyen, parce qu'il dira que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Mais donc ce tableau sera un petit peu, je dirais, pas maudit, mais très mal reçu.
Et face à ces critiques, l'argumentation de Caillebotte, vous le dites dans votre livre, était de dire « J'ai toujours privilégié dans ma peinture la puissance évocatrice du réalisme ». Donc il y avait une finalité dans sa peinture qui était bien établie.
Ah oui, oui, tout à fait, oui, oui. C'est quelqu'un... Alors, Caillebotte n'a jamais peint à partir de modèles qu'il payait. Ça a toujours été sa famille, ou des amis, ou des personnes comme ça qui travaillaient. Donc, je pense qu'un matin, il est arrivé pour... pas inspecté, parce que c'était pas le style de Caillebotte, c'était quelqu'un d'extrêmement bienveillant, mais peut-être qu'il est arrivé sur le chantier, et il a vu donc le travail, et il s'est dit, voilà, comme je l'imagine dans l'avant-propos du livre, qu'il tenait là le sujet d'une toile intéressante, peut-être. Donc, Caillebotte a voulu illustrer quelque chose qui était sous ses yeux, mais avec peut-être beaucoup de liberté. Moi, je pense, et je ne suis pas le seul, hein, dans les années 50, il y a un historien de l'art qui a supposé que peut-être il n'y avait qu'un seul raboteur, et que lui en a rajouté deux. Alors déjà, ils se ressemblent, hein, tous les trois, pour montrer une forme de décomposition du mouvement. Voilà, ça aurait été plus amusant, peut-être, d'en mettre trois, parce que lorsqu'on regarde le tableau, on a l'impression d'entendre le bruit des rabots, du marteau, etc. Et ça donne aussi à la composition quelque chose de plus rythmique. Voilà. On a une bouteille de vin qui est posée à droite de la toile. Cette bouteille de vin, c'est bon, évidemment la bouteille de vin qui permettait aux raboteurs d'étancher leur soif, parce qu'il fait chaud dans cet appartement, hein. Ils sont torse nu, ça sent la poussière, ça sent la sueur, il faut se désaltérer. Mais cette bouteille aussi, elle reprend un petit peu la composition du tableau, et c'est presque une nature morte qui est dans ce tableau, hein. On a un marteau qui est en bas, un couteau, pardon, qui est en bas du tableau, qu'on retrouve souvent dans les natures mortes du 15e ou 16e siècle. Vous avez des compotiers, des fruits, et vous avez toujours devant la table une fourchette ou un couteau, et ça montre un enfoncement de la perspective. Donc, vous voyez, il est en train de représenter quelque chose qui est très réaliste, une réalité prise sur le vif, mais il prend quand même quelques libertés. Voilà. Donc, tout est possible, hein. Qu'il y ait eu un ou trois raboteurs, peu importe. Mais je trouve que cette hypothèse est assez amusante. Et d'ailleurs, dans mon livre, j'imagine que une personne qui était bonne chez les Caillebotte s'en souvient 10 ans plus tard, lorsqu'elle va voir Degas, parce que cette personne, c'est une des deux repasseuses qui a été peinte par Degas. Et elle va voir Degas pour voir le tableau Les Repasseuses, où justement elle tient une bouteille de vin et elle boit, parce que le peuple qui travaille a soif, et elle se rappelle ce tableau de Caillebotte peint 10 ans plus tôt, et elle dit à Degas, mais attendez, j'ai bien connu Monsieur Caillebotte, c'était une famille de gens très prévenants, et j'amenais le matin la bouteille de vin, et il n'y avait qu'un raboteur, il n'était qu'un, voilà. Donc je me suis amusé de cette hypothèse, qui est plausible, mais voilà, cette repasseuse n'a jamais peut-être travaillé chez les Caillebotte, et je pense qu'elle n'a jamais travaillé chez les Caillebotte. Mais je trouve que c'est bien, parce que Degas était un ami de Caillebotte, ils se sont fâchés par la suite, mais ils sont toujours restés admiratifs l'un de l'autre. Donc voilà, ces passerelles, ben, on les a aussi dans ce tableau.
Voilà, et ce qui fait l'intérêt effectivement de votre roman, c'est cette mise en scène d'hypothèses probables ou non probables qui fait que ça anime beaucoup le récit. Du roman dans son intégralité.
Oui, il y a des choses, alors peut-être qu'on y reviendra, mais alors je n'ai pas vu l'exposition encore, mais dans les cartels, il y a beaucoup de cartels. Les cartels, c'est les petits cartons qui sont sous le tableau. Justement, face à cette forte présence masculine, il y a une interrogation sur une probable homosexualité de Gustave Caillebotte. Alors, peu importe qu'il ait été homosexuel ou qu'il ait eu comme ça une homosexualité non consommée, puisqu'il a quand même vécu plusieurs années avec une compagne. Mais voilà, dans mon livre aussi, je fais parler donc sa compagne, où elle se pose des questions, mais après tout, elle se dit non, voilà, peut-être que je m'égare un petit peu, etc. Parce qu'elle retrouve une photo de Caillebotte déguisée en femme. Puis elle se dit, oui, mais Toulouse-Lautrec s'était déguisé en belle Otero aussi. Voilà, elle dit, mais il ne m'a jamais peint sur un tableau avec lui à côté. J'aurais tant aimé un autoportrait à deux. Voilà, bon. C'est des hypothèses que je trouve... on va dire, je me les suis autorisé parce que je ne démontre rien. Et peu importe que Caillebotte ait été homosexuel, voilà. Alors c'est vrai que son univers masculin est un peu, on peut le considérer un peu homo-érotique, mais voilà, on pourrait dire ça de tant et tant de peintres.
Et donc ces anecdotes ou ces suppositions que vous reprenez donnent effectivement, entretiennent le côté romanesque de ce récit. Je vous propose maintenant d'écouter Gershwin.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous continuons à découvrir en compagnie de Dominique Ozel son dernier ouvrage, Ouvrier artisan du beau, selon Caillotte. Dominique Ozel, nous venons d'écouter Gershwin, un Américain à Paris. La liaison avec Caillebotte se procède de quelle manière?
Oh, alors moi j'ai toujours des liaisons un peu étranges parfois, mais je trouve que Gershwin, et notamment un Américain à Paris, pour moi, pourrait suggérer ce Paris haussmannien qui change avec cet univers complètement différent, un Paris qui bouge, qui grouille, de la fumée, des gens qui marchent, des calèches, etc. Voilà. Puis un Américain à Paris, c'est Gershwin, et Caillebotte est un peintre qui a été énormément apprécié par les Américains, assez rapidement, hein, puisque les Américains, et notamment de riches collectionneurs qui travaillaient dans le pétrole, etc., se sont rapidement intéressés intéressés à la peinture impressionniste et ont acheté beaucoup de tableaux qui étaient pour eux un moyen de faire un placement, bien évidemment. Et beaucoup de tableaux de Caillebotte sont dans de grands musées américains ou dans des collections privées américaines. Voilà. Donc il y a ce petit lien avec Gershwin.
Il y a un musée américain qui récemment a fait une acquisition.
Oui, le Getty.
Record.
Voilà, record, qui a été la plus grande enchère sur un tableau de Caillebotte. Et d'ailleurs, ce tableau est exposé à Orsay et l'exposition d'Orsay partira ensuite à Los Angeles et ensuite dans un autre musée à Chicago. Voilà. Et pourquoi Gershwin ? Parce que Gershwin, c'est la comédie musicale, évidemment. Un Américain à Paris, c'est ce film très célèbre. Et lorsqu'on regarde les tableaux de Caillebotte et lorsque j'écrivais ce roman, je me suis dit, mais ce tableau et la vie de Caillebotte, ça mériterait une adaptation théâtrale et pourquoi pas une comédie musicale. Et aujourd'hui, on fait des choses remarquables avec des personnages qui pourraient sortir de l'écran, etc., d'un tableau. Voilà, donc pour moi, on est dans un univers un petit peu de Gershwin. J'aurais pu prendre Rhapsody in Blues, mais voilà, les tableaux, curieusement, de Caillebotte, même les tableaux parisiens, ont un côté, je trouve, parfois, qui fait penser à New York. Et c'est peut-être cet environnement urbain qu'il y a souvent dans les tableaux de Caillebotte. Donc, vous voyez, ce sont des liens qui n'appartiennent qu'à moi.
Alors, revenons à ce tableau. On disait au début de l'émission qu'il avait une vision très photographique. Alors, évidemment, on n'est pas étonné que vous ayez choisi Caillebotte, que vous ayez choisi ce tableau, puisque vous-même, vous êtes féru de cinéma. Et Caillebotte avait aussi un frère qui était photographe. Donc, en quoi peut-on dire que ce tableau a présente une composition photographique ?
Alors, en effet, vous l'avez justement dit, Caillebotte avait un frère qui s'appelait Martial. Ils étaient extrêmement liés. Ils ont partagé plusieurs passions, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, si on a un petit peu de temps. Et Martial, qui était compositeur de musique, je l'ai dit, est devenu ensuite un photographe. Et on pourrait penser que c'est le frère Martial, photographe, qui a inspiré Caillebotte dans les cadrages, les angles de prise de vue, etc. Et c'est tout à fait le contraire. C'est en fait Martial qui, voyant les œuvres de son frère, s'est dit « mais je devrais prendre mes photos comme ça ». Et donc, il y a un parallèle intéressant, et d'ailleurs, il y avait une exposition au musée Jacquemart-André il y a quelques années, à Paris, qui était peut-être une des premières belles expositions autour de Caillebotte, et c'était une exposition sur les frères Caillebotte, et ça montrait les rapports entre le peintre et le photographe. Mais donc, Martial, qui bien évidemment a photographié les œuvres de son frère pour en garder une trace, hein, c'était une façon de faire un catalogue, je dirais, de ses œuvres, il s'est énormément inspiré des cadrages, des angles de prise de vue, des sujets aussi, hein, puisqu'il y a plusieurs photos de Martial Caillebotte postérieures à des tableaux de Caillebotte où on voit des hommes qui sont penchés à la fenêtre d'un balcon et qui regardent le Paris qui s'ouvre devant eux. Donc il y a véritablement un lien entre la photographie et, je dirais, l'œuvre graphique de Caillebotte. Mais on pourrait étendre ça même au cinéma. Il y a un tableau de Caillebotte où on voit du linge qui sèche, et lorsque vous regardez ce tableau, vous avez vraiment l'impression, par rapport, je dirais, à la façon dont il a peint, que le linge est en train de bouger. Il y a une représentation un peu subliminale du mouvement. Et ça fait penser aux réflexions que faisaient les spectateurs du cinématographe Lumière fin 1895, donc un petit peu 20 ans après, je dirais, les raboteurs, qui ne s'étonnaient pas de voir du mouvement dans les tableaux, parce qu'ils avaient vu des projections d'ombre, de lanternes magiques. Donc bon, ça les étonnait, hein. Le train qui traverse l'écran, c'est une c'est quelque chose qui n'a pas existé. Hein. On s'est moqué un petit peu de ça parce que l'image tremblait. Mais par contre, souvent, des spectateurs qui regardaient les films Lumière s'extasient en disant « Mais regardez, il y a même les feuilles qui bougent dans les arbres. » Voilà. Et c'est ce détail que l'on a, je trouve, dans Caillebotte. Mais comme vous l'avez dans les représentations de pas mal de peintres impressionnistes, hein, faut pas oublier que les impressionnistes... Ils ont pu naître parce qu'il y a eu l'invention du tube de peinture et des chevaliers portatifs qui leur permettaient de sortir dans la rue, dans la campagne. Et ils n'étaient plus prisonniers d'un atelier et d'un grand chevalet immense. Un peu, alors je reviens encore au cinéma, comme les cinéastes de la Nouvelle Vague qui, dans les années 55, que ce soit les Chabrol, les Godard, etc., et les Truffaut, évidemment... avec une petite caméra, on peut aller filmer dans la rue. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça que l'on retrouve dans Caillebotte, cet art de suggérer le mouvement, le hors-champ, des cadrages audacieux et des choses très photographiques ou cinématographiques.
Donc, quelque part, Caillebotte était peut-être... en avance sur son temps. Je ne voudrais pas que nous quittions sans que vous nous parliez un petit peu des autres facettes de Caillebotte le plus rapidement possible. Néanmoins, auparavant, je voudrais signaler aux auditeurs qu'il s'agit d'un roman épistolaire et que la construction du roman est faite telle que vous donnez la parole à travers la rédaction de lettres d'un certain nombre de personnages qui vont venir éclairer l'appréciation sur le tableau, des éléments qui vont être donnés au sujet de Caillebotte. Et cette manière de construire le roman est quelque chose qui le rend très agréable à lire. Donc je voulais le signaler aux auditeurs. Donc maintenant, est-ce que vous pourriez nous donner les facettes de Caillebotte au niveau de ses activités? Parce qu'il n'a pas été que peintre.
Non, alors d'abord il a été mécène, il a aidé les impressionnistes, hein, que ce soit Renoir, Monet et d'autres, en payant leurs expositions, en payant leur matériel, les loyers, en leur achetant des toiles bien au-delà de leur valeur d'alors. D'ailleurs la plupart des toiles qu'il a achetées, un peu plus de 70, seront données à l'État et seront, je dirais, le début de la collection impressionniste du musée du Jeu de Paume qui ensuite sera au musée d'Orsay. Mais Caillebotte avait plusieurs passions. La première, il adorait le jardinage. Il collectionnait des orchidées et des plantes exotiques rares dans une serre. Donc ça a été une grosse passion. Il a collectionné beaucoup de faïences aussi et de céramiques. Il a été un grand philatéliste, c'était avec son frère l'un des plus grands philatélistes. Il avait ce fameux 20 centimes noir qui est le premier timbre émis en France. Il a revendu sa collection ensuite. Il a ensuite réalisé et conçu des bateaux puisqu'il était régatier. Alors il y avait son amour de la nature, de l'eau. Dans deux de ses résidences, je dirais de campagne, elles étaient en bord de cours d'eau, donc il a pu s'adonner à la passion du yachting. Voilà, donc Gustave Caillebotte, c'est pas uniquement l'homme, je dirais, d'une seule passion, mais d'une multitude de passions. Mais attention, pas des passions de quelqu'un qui était riche et qui pouvait s'amuser. Non, c'était des passions dans lesquelles il allait jusqu'au bout, qui étaient aussi tournées sur les autres. D'ailleurs, à son enterrement, une dizaine de ses amis régatiers porteront le voile sur le cercueil, tant ils aimaient leur Gustave. Donc c'était des passions qu'il a partagées. Et aujourd'hui, toutes ces passions, peut-être hormis la philatélie, on les retrouve dans ses tableaux, parce que ça a été des objets, je dirais, de sujets pour ses œuvres.
Merci beaucoup Dominique Ozel. Je voulais signaler aux auditeurs que toutes ces passions et toutes ces facettes de Caillebotte sont bien révélées dans ce roman et que on découvre beaucoup de choses à son sujet, ce qui fait effectivement le plaisir qu'on en a de le lire. J'aurais envie de vous poser la question, le prochain ouvrage ou peut-être le prochain film pourrait être sur Caillebotte.
Alors, il y a peut-être un autre roman d'un chef-d'œuvre pour 2026. J'hésite entre deux peintres. Et là, je travaille actuellement sur un autre ouvrage sur Alfred Hitchcock. Voilà, autour de son film Psychose, mais quelque chose un peu romanesque également. Ce n'est pas une étude sur l'esthétique du film. Mais ce film est très étonnant, et sa genèse aussi, puisqu'il a failli ne jamais se faire. Et beaucoup d'anecdotes me permettent de partir sur une narration un peu étonnante. Voilà.
Donc nous attendons avec impatience Psychose. Merci Dominique Ozel. Je rappelle que vous nous avez présenté votre ouvrage « Ouvrier, artisan du beau selon Caillebotte » paru cette année dans la collection « Le roman d'un chef-d'œuvre » aux éditions Atelier Henri Dougier. Merci aux auditeurs pour leur fidélité. Merci à Christophe Aubry à la technique. Au revoir à tous et bonne lecture.